Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et voici l'épisode numéro 79. Cette semaine, on revient sur la dispute entre Toto Wolff et Christian Horner. On parle de l'annulation du Grand Prix de Singapour et de l'impact sur le calendrier 2021, ainsi que la controverse Pirelli à la suite du Grand Prix d'Azerbaïdjan de dimanche dernier. Bonjour ou bonsoir, peu importe où vous êtes, bienvenue à ce nouvel épisode du Bulletin GP. Alors Abdou Sall avec vous et cette semaine, je suis en compagnie de Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria.
Salut Abdou, ça va?
Oui, ça va bien toi?
Oui, il fait chaud.
Ouais, on est passé par une belle période de canicule ici au Québec, mais heureusement dans les prochains jours... ça va être un peu plus frais, donc au moins on peut arrêter d'utiliser le climatiseur. Alors, et parlant de chaleur, à Azerbaïdjan, ça, en fin de semaine, ça a été chaud entre deux personnages, Christian Horner et Toto Wolff, dont ça va être le premier sujet. Et on va commencer, Ana Maria, je vais te faire écouter un clip très populaire.
Oh. Let's get ready to rumble!
Eh oui, parce que on va parler de Christian Horner et de Toto Wolff, parce que si on a eu le combat entre guillemets entre Floyd Mayweather et le YouTuber Logan Paul en fin de semaine, nous de notre côté en Formule 1, on a eu un combat verbal entre Christian Horner et Toto Wolff. Évidemment, ça a été surtout en lien avec cette histoire des ailerons flexibles qui sont soit est-ce que c'est légal ou pas. Évidemment, Toto Wolff dit que les ailerons arrière flexibles de Red Bull sont apparemment illégales. Christian Horner se défend. Et... disons que ces deux-là se sont envoyés de beaux mots, puis ça remonte pas seulement que cette fin de semaine. Par exemple, je pense qu'il y a quelques jours, Christian Horner n'a pas aimé que Toto Wolff critique son écurie publiquement après les contre-performances de Monaco et Bakou. Soyons honnêtes, c'était pas la performance espérée pour une équipe championne du monde. Concernant l'histoire des ailerons flexibles, Toto Wolff a traité Horner de windbag, en français de moulin à parole. suite à des menaces de contestation avant ou pendant le Grand Prix d'Azerbaïdjan pour dire est-ce que c'est légal ou non. Et en réplique à cette insulte de moulin à parole, Horner a dit à Wolff de se la fermer et de faire attention à son aileron avant, laissant préjuger que peut-être que l'aileron avant est illégal aux yeux de Horner. Et il faut remonter, entre autres, à il y a quelques semaines de cela, en avril, quand Horner et même Zak Brown de McLaren ont dit qu'ils voyaient Max Verstappen et George Russell chez Mercedes en 2022 et Toto Wolff a dit que ces deux-là ne répandent que des conneries. Et en décembre 2020, Christian Horner a suggéré que Toto Wolff s'est servi de George Russell pour faire pression sur Lewis Hamilton quand ce dernier a contracté la COVID-19 et que Russell a pris le relais et a presque gagné le Grand Prix de Sakhir. Et voilà, donc ça c'est une des nombreuses ripostes entre ces deux-là. Donc Ana Maria, je te pose la question, est-ce que c'est de la guérilla mentale ou bien ce sont des trucs de cours d'école d'après toi?
Mais je pense que c'est normal, mais parce que aussi, c'est la première fois qu'il est en position de pression. Avant, tout était parfait de son côté, mais Je pense que Toto Wolff n'a pas trop mesuré qu'est-ce que Red Bull il peut répondre tout le temps. Mm-hmm. Parce qu'ils ont fait la même chose avec Ferrari, tu te rappelles, avec le moteur 2019.
Oui, le moteur 2019.
Oui, c'est ça que Toto Wolff il parlait beaucoup parce que c'est lui qui était le moulin à parole. Il parlait beaucoup, il lançait des accusations, mais quand c'est passé, c'est ça qu'on était un peu surpris parce que Binotto, il n'était pas trop bavard.
Ouais, Binotto,
c'est il juste le laissait parler tout seul. c'est ça. Mais ça marchait de côté Mercedes parce que la FIA, il fait son intervention. Et à la fin, c'est Ferrari qui, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais. Il était quand même pénalisé. Mais ils n'ont pas mesuré. Toto Wolff, je pense qu'il a sous-estimé Red Bull.
Ouais.
Parce qu'il a commencé à lancer des accusations à cause des alérons. Mais de toute façon, de côté de Red Bull, il répond. Il dit on est prêt, mais il faut le temps pour faire les tests parce que. Jamais ils ont fait les tests de l'aileron pour tout le monde,
oui.
Mais juste la FIA a décidé de changer la façon de faire son test. Fait qu'ils soumettent l'aileron, ils vont le soumettre à plus de poids pour regarder combien il est capable de flexionner. Mais tu sais, il faut que l'aileron soit prêt aussi parce que si tu mets plus de poids sur quelque chose qu'avant, tu mettais moins, c'est sûr que le résultat, c'est pas pareil.
Et ça peut donner un avantage aérodynamique assez important. Et je comprends.
Mais oui, ça peut donner, mais je comprends. Mais tu sais, il était déjà là l'année passée. C'est sûr que cette année, Mercedes, il conteste, c'est parce que Red Bull est trop proche.
Ouais.
Parce que sinon, ça ne le dérange pas. Mais aussi, il faut prendre en compte que ce n'est pas juste Red Bull, c'est Ferrari, Alpine.
Oui. Alfa Romeo aussi, je crois.
Alfa Romeo, il y a 4 équipes qui sont dans le même bateau.
Ouais.
C'est juste qu'on parle de Red Bull parce que c'est Red Bull, c'est lui son rival. Mais c'est ça que je pense, oui, c'est normal. Il essaie de faire. Comme il a fait avant avec Ferrari, il a lancé des paroles sur les médias, sur des interviews, fait que ça arrive qu'il n'y a pas eu contestation comme officielle, juste la FIA qui intervient. Mais maintenant, Red Bull est prêt, il dit, OK, tu veux jouer à ça? On t'attend. Il se verrait que l'aileron de Mercedes c'est différent. Et on l'a vu parce que maintenant que Red Bull y parle, et Red Bull dit, OK, si j'ai des pénalités sur mon aileron, toi, tu vas garder. Ils ont préparé les dossiers.
Mm-hmm.
Parce que dit, la contestation, ça va être ça. On va demander une requête pour ton aileron. Et on l'a vu parce que, je ne sais pas, la F1 y a mis des caméras.
Ouais.
Et tu as vu, je ne sais pas si tu as vu les images, l'aileron de la Mercedes, ça a l'air d'un DRS, ça s'ouvre et ça se ferme.
Ouais.
Et très, très pointu.
Mais tu vois l'histoire en fait des ailerons flexibles, ça me fait penser un peu l'année dernière. Tu te souviens l'année dernière avec le DAS? Red Bull, je pense, faisait partie d'une des équipes qui essayait de contester.
Oui, mais c'est la question, c'est que les ailerons, tout le monde y est ça.
Mm-hmm.
La différence, c'est qu'il y a des équipes comme Red Bull qui dominent plus l'aérodynamique.
Mm-hmm.
Ils sont capables de très, ils ont pas n'importe qui avec, comme ingénieur. C'est Nui, c'est l'expert en tout ce qui est l'aérodynamique. Et Red Bull, c'est lui qui est le plus compétent à comprendre comment mm-hmm. ça marche. Mais comme on avait dit, il y a plusieurs équipes. Et même si Mercedes il voulait faire aussi, il peut aller essayer de faire le plus possible et le plus efficace. Mais la différence, c'est que les DAS, il n'y avait personne qui avait ça. Mm-hmm. C'était quelque chose de nouveau introduit pour Mercedes. Et en plus, aucune équipe, il y a eu ça, l'avantage de l'avoir. Pourquoi? Parce que la FIA, oui, il a dit c'est correct parce qu'il n'était pas sur la réglementation. Fait qu'il a dit, OK, on dit à Mercedes, oui, vous pouvez le garder, mais c'est interdit l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. Il empêche tout le monde de développer ça parce que personne ne peut le faire pour les mêmes, pour tout de suite. Et ils ne vont pas gaspiller pour l'année prochaine parce que l'année prochaine, il était illégal. Ce n'est pas la même chose.
Mais, juste pour revenir en fait avec Wolf et Horner, est-ce que tu crois que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être nuisible pour la Formule 1? Parce que de voir deux directeurs d'écurie s'envoyer des insultes au fur et à mesure pendant un week-end de Grand Prix, alors que l'action se passe en piste, on a un beau duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen en piste, assez propre, ça joue du coude, mais en arrière-plan, c'est Wolff contre Horner.
Non, mais c'est quand même bien. C'est une belle rivalité. Ça fait parler, ça fait oui, il y a la rivalité en piste, mais il faut que personne se laisse faire aussi. Et ils ne sont pas non plus en train de se dire des mauvais mots, de se chicaner pour verre, comme ils font en NASCAR.
Ouais, NASCAR, ils vont c'est aller. Autre chose.
Oui, c'est ça. NASCAR, le directeur d'équipe, ils ne vont pas se parler. Ils vont aller dans le garage de l'autre, ils vont se donner trois coups ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas pareil. Je ne pense pas que ça nuit le spectacle, parce que c'est ça qu'on cherche, la rivalité. Et je pense que c'est moins pire que la chicane qu'il y avait avant entre, disons, Red Bull et Cyril Abitiboul qui répondait tout le temps. C'était pire.
Non, Honneur contre Abitiboul, ça, c'était autre chose. C'était plus à l'interne parce que c'était...
Oui, mais on savait tout ça. Ça parlait partout. Ils se regardaient. Même il y avait des signaux des fois à la caméra quand ils se watchaient et tout.
Ben, c'est ça. Ça, c'est Drive to Survive qui est en train de se lécher les doigts parce que, avec ce qui se passe entre Horner et Wolff, ils pourraient carrément faire une série complète sur, sur les deux. Ça pourrait être facilement 10 épisodes de Horner et Wolff qui s'envoient promener et comme Lewis Hamilton et Max Verstappen l'ont dit à la blague, ça pourrait carrément être un combat de boxe aussi. Et je paierais même le double de ce que je pourrais voir entre Logan Paul et Floyd Mayweather. Ce serait plus réel qu'un combat amical et avec moins d'argent en compte aussi.
Non, je pense que c'est pas mauvais non plus. Et j'ai dit, c'est ça qui est bien, parce que j'ai dit, quand même, c'est Hamilton et c'est Toto Wolff qui ont commencé à montrer des doigts à Red Bull. La première, deuxième course, et Hamilton a dit, ils ont quelque chose d'étrange sur l'aileron. Et après, c'est Horner qui répond, oui, mais lui, il ne connaît pas ça, ça, c'est son boss qui a dit quelque chose, et c'est là que tout se déclenche.
Ben, ça, c'est.
Et c'est où? C'est ce que je dis. Mais
c'est la guérilla mentale.
Toto Wolff, il a subestimé. Il a subestimé Red Bull. Ils sont plus capables de répondre que Ferrari maintenant.
Ben, c'est ça, mais est-ce que c'est parce que Mercedes est sous pression maintenant que Red Bull est capable de compétitionner? Puis on l'a vu, oui, mais il y a Verstappen, mais il y a Perez aussi qui est là. Donc, au moins, Red Bull a un peu plus, peut compter sur deux pilotes. Et au moins, eux, contrairement à Ferrari, ils sont capables de rester constants, de ne pas se saborder 2017-2018.
Oui. Donc... oui, c'est ça. Et tu as vu les gestes aussi. Quand Pérez il était devant Verstappen, tu te rappelles la deuxième course, je pense. Ah non, à Imola.
Ouais.
Et à Imola, et Pérez, en qualification, il a fait P2.
Oui.
Tant que Verstappen a fait P3, il t'a vu comme Hamilton, il félicitait à Pérez, et après c'était Toto Wolff, il était tout le monde comme, ok, très, très accueillant. Et Ben Pérez, comme en disant à Verstappen, regarde, il t'a gagné, mais après la course, c'était autre chose. Parce que c'est Verstappen qui domine.
C'est Verstappen qui a dominé. Et c'est ça, c'est une guerre mentale, en fait. Parce que Red Bull, comme je l'ai dit, maintenant qu'ils ont enfin une voiture pour rivaliser, alors que tout le monde disait qu'en 2017, ils allaient être l'équipe qui va profiter de la nouvelle génération de voitures plus large, évidemment plus large, plus fonctionnelle en manière aérodynamique. Puis ça n'a pas été ça. Ils ont eu des problèmes de moteur et tout. Ensuite, oui, ça a été la transition avec Honda. Donc ça a été un long retour vers le sommet pour se battre pour des victoires. Et même l'année dernière, presque à pareille date, on se disait, on va enfin avoir un duel Verstappen contre Hamilton pour le championnat. Puis dès la première course, abandon. Et ensuite, ça a été Mercedes qui a dominé tout au long. Et même, je pense, la dernière course de la saison à Abu Dhabi, c'était peut-être une indication que Red Bull était prête pour 2021.
Ouais. Et tu vois, Red Bull est prêt. Ils sont concentrés. Ils continuent à faire de bons travaux. Même si des fois, Pérez n'était pas là quand il y avait besoin. Mais et tu vois, à Monaco, ça s'est passé très mal pour Mercedes. Et j'en étais habitué à rouler en avant.
Ouais.
Parce que quand j'ai eu des problèmes, il y a tout qui n'a pas marché, il y a même fait des mauvais stops. Mm-hmm. L'équipe, ils ont commis des erreurs. Même Hamilton à Monaco, s'il disait, je n'ai pas commis d'erreurs, mais quand même, il n'a pas réussi. Lui, il n'a pas réussi à mettre un bon tour sur la voiture. Et ici, à Bakou, il disait, Toto Wolff, c'est pas grave, on revient à un circuit plus convivial pour Mercedes, ça va y aller. Et c'était la catastrophe. Mm-hmm. Regarde, Bottas n'était même pas là, et Hamilton, et même il y avait un drapeau rouge, mais de toute façon, Hamilton n'était pas très... confortable non plus. Et tu vois, ils ont essayé de jouer le jeu psychologique, ouais, avec Red Bull, mais ça se retourne contre eux parce que c'est lui qui a commis l'erreur, c'est Hamilton.
Oui, mais en même temps, la saison est, on va se le dire, la saison est encore jeune. Donc, ouais, c'est sûr que Mercedes peut revenir. Ils ont l'expérience. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont septuple champion du monde. Ils sont capables de revenir. Donc, je crois que Toto Wolff sait ce qu'il fait. Je comprends que, en ce moment, ils savent que Red Bull, ce n'est pas Ferrari. C'est beaucoup plus proche qu'on le pense. Mais, j'ai l'impression que Toto Wolff, d'accord, il regarde ce qui se passe chez Red Bull, mais il essaye quand même de garder le cap avec Mercedes. Là, ils ont un petit problème qui s'appelle Valtteri Bottas, qui ne connaît pas un bon début de saison actuellement.
Mais c'est pas juste Bottas, à Bakou, il était les deux pilotes parce qu'à Bakou, il était...
Oui, à Bakou, à Monaco, c'était...
Parce qu'à Monaco, c'est Bottas qui était en avant et c'est l'erreur de Mercedes. Bottas, ouais, il était là.
Non, je comprends, mais le point est que en général cette saison, Bottas n'a pas livré la marchandise et a été malchanceux entre-temps. Bahreïn, il a été complètement largué. Imola, accrochage avec George Russell. Portugal,
que c'était pas sa faute.
Ouais, ce, bon, Portugal, Imola, c'était pas sa faute, ça je pense que c'est clair. Portugal, il a été largué par Hamilton et par Verstappen, et peut-être que ça aurait, si Perez s'était arrêté un peu plus tôt, ça, il aurait été largué par Checo aussi. Ensuite, il y a eu Espagne, très loin des deux, a pas tant joué un rôle. Donc,
mais à Monaco, Bottas y était là. C'est lui qui était le plus confortable avec la voiture. Ça marchait pour lui, les changements. Mais, c'est ça. Ils ont raté les coups au stand. Mais c'est pas, on va pas non plus mettre la faute sur lui. Parce que si Bottas y aurait été là, ça serait pas la catastrophe maintenant pour Mercedes.
Ouais. Et justement, je crois que pour Wolff, lui, son but, il le sait, il est passé par là, comme je l'ai dit avec Ferrari en 2017 et 2018, puis un peu en 2019 aussi, à certaines courses. Ils le savent que ça ne sera pas de la tarte. Donc, oui, comme j'ai dit, Wolff va regarder un œil sur son écurie, mais va garder un œil plus constamment sur Red Bull parce que eux, ils ne niaiseront plus. C'est fini. Je pense qu'on l'a prouvé. Ils l'ont prouvé qu'ils ont été capables. Donc, Christian Horner, lui, et ça a souvent été ça. Oui, je comprends un peu l'insulte du moulin à parole parce que, je vais dire, Horner, il parle beaucoup. Il parle beaucoup aux médias, donne son opinion aussi. Donc, c'est sûr, là, il essaye de déstabiliser, Toto Wolff, comme si c'était quelque chose de nouveau, je dois dire. Mais là, c'est encore plus serré.
Mais tu sais aussi, Toto Wolff, il s'est calmé après la qualif.
Ouais.
Après la qualif, c'est à Bakou, il voulait parler à personne.
Ben, tu vois, c'est ça, c'est parce que... après, il voulait parler à personne parce que il voulait travailler sur les changements à faire. Puis ça a relativement ça a fonctionné pour Hamilton. Ça a fonctionné pour Hamilton, donc ça a été pas mal ça. Donc, en gros, Wolff, lui, il a quand même un travail à faire. On a de son côté à son travail à faire. Donc, moi, personnellement, je pense que cette histoire, entre autres, des ailerons flexibles, ça va s'étouffer après le Grand Prix de France. Je pense qu'après ça, ce sera terminé et on pourra retourner un duel entre Hamilton et Verstappen comme on l'a tant souhaité, plutôt que d'avoir.
Mais bon, attends pas que c'est calme, hein, Toto Wolff, il est pas sopé. Ben, ça fait des années qu'il gagne. Lui, il va essayer autre chose. Hein. Il va pas rester tranquille juste savoir Verstappen en avant et à Red Bull.
Ben, comme on dit, Wolff va répondre par la bouche de ses canons, c'est-à-dire en piste. Donc, là en France, Mercedes a toujours été bonne. Autriche, là, ça risque d'être un peu plus serré parce que là, c'est deux courses et on risque d'avoir un bon duel entre Mercedes et Red Bull, on se le souhaite. Donc, comme je dis, le championnat est encore jeune. Et pour reprendre les fameux mot de Lewis Hamilton, c'est un marathon, pas un sprint, donc même si ça s'est mal terminé quelques minutes plus tard, le point tient quand même, et j'ai l'impression que pour leur santé mentale, pour leur cœur aussi, ils devraient essayer de se concentrer un peu plus sur les défauts à faire. Mercedes doit rebondir sur leur mésaventure de Monaco et de Bakou. Red Bull doit continuer à être constant comme ils l'ont fait quand ils ont dominé la Formule 1 entre 2010 et 2013. Alors, moi personnellement, c'est bien beau la guerre des mots jusqu'à aller au combat de boxe. Mais à un moment donné, il y a un championnat en piste à se faire. Donc, ils doivent rester 100% concentrés parce que une simple perte de concentration, puis tout peut dérouiller. Tout peut dérailler. Là, heureusement, il y a 26 points entre Red Bull et Mercedes et 4 points entre Verstappen et Hamilton. Je crois que les deux devraient À moins qu'on découvre quelque chose de super important avec les ailerons flexibles et que ça revienne, moi je pense que après ça, après France, Autriche, ça devrait se calmer. Je me le souhaite.
Oui, il faut faire attention parce que si Pérez continue à performer, ça va être pire pour Mercedes parce que aussi on a eu la chance que Pérez n'était pas trop là en avant, mais que maintenant aussi commence à être confortable en avant. C'est là que ça va faire mal.
C'est vrai. C'est bel et bien vrai. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines avec Christian Horner et Toto Wolff. On va passer maintenant au deuxième sujet. Une nouvelle qui, personnellement, me fait vraiment mal. Autant que... Parce qu'en plus, c'est supposé être la semaine du Grand Prix du Canada. Malheureusement, on l'a pas, mais on a perdu le Grand Prix de Singapour 2021, évidemment en raison des restrictions de voyage liées entre autres avec la COVID-19, donc des restrictions de voyage aussi strictes qu'en Australie, donc la quarantaine obligatoire. Donc c'est plus pour des raisons logistiques et de voyage aussi que le Grand Prix de Singapour a été annulé, et entre autres avec la longue préparation que ça donne, que ça prend, parce que c'est une ville-état à Singapour, donc c'est quand même assez petit, mais ça prend beaucoup de préparation. Les options de remplacement possibles, ce serait la Turquie, la Chine ou bien une course numéro 2 aux États-Unis. Probablement Austin, mais ça reste à voir. Et aussi, pour certains, c'est pas une surprise que le Grand Prix de Singapour soit annulé, puisqu'il y a 3 semaines, le World Economic Forum, qui devait avoir lieu à Singapour au mois d'août, a été annulé justement pour les mêmes raisons. Donc, c'est un peu une réaction à la chaîne qui a suivi après cela. Donc, la première question, Anna Maria, est-ce que ça te fait mal de perdre le Grand Prix de Singapour?
Cette année, c'est pas une année normale, c'est que je m'attendais à pire, mais que maintenant, j'ai fait mon deuil pour mon Grand Prix de Canada, les autres, c'est moins pire.
Ouais, il y en a qui...
C'est moins pire, quand même. Et on peut dire que la F1 essaye de sauver la session, quand même. Ouais. Et on fait des efforts. Et c'est sûr qu'on dit, oui, ça fait mal perdre Singapour, mais quand même, on mis 23 courses. Mm-hmm. Que, de toute façon, on peut perdre quelques-uns et on continue à Et très bien, je ne sais pas s'il va être remplacé, mais peut-être aux États-Unis, c'est la chose va bien au moins.
Ouais.
Ben, bien, s'ils mettent des publics déjà, et ça marche à peu près normal, fait que 2 courses, ça pourrait marcher, mais c'est sûr que ça fait toujours mal perdre Singapour. En plus, c'est un circuit qui n'aime pas Mercedes.
Ouais, ben c'est ça, parce que au moins
je pense que Hamilton est content.
Ouais, Singapour, c'est pas historiquement, à part quelques fois, c'est pas un circuit où Mercedes, ouais. Mais ça c'est où Mercedes est fort, mais ça c'est autre chose. Ouais, mais moi personnellement, ça, comme j'ai dit, ça me fait mal parce que Singapour, ça donne toujours de relativement de bons grands prix. Puis en plus, c'est une course nocturne. Mais
c'est une belle place aussi.
Ah, c'est une belle place en plus, Singapour.
Pour moi, ce qui me dérange, c'est que j'aimerais plus avoir Singapour que Russie, par exemple, Sochi.
Ouais.
Non.
Ben, justement, je vais passer à ma deuxième question. Est-ce que la Formule 1 doit vraiment continuer à se dérouler avec 23 courses? Parce qu'actuellement, on n'a pas encore annoncé les plans de remplacement. Là, on est à 22 courses officiellement cette saison, mais la Formule 1 tient vraiment à avoir sa 23e course. Et avec l'exemple parfait, ben le Grand Prix du Canada a été annulé. Ça a été remplacé par la Turquie, qui, à cause des restrictions de voyage et parce que le pays est dans la zone est dans la liste rouge de la Grande-Bretagne. Et ça doit entraîner une quarantaine de 14 jours au retour du personnel de la Formule 1, des écuries. Donc, et en plus d'un test négatif, donc c'est pas possible. Ça a entraîné aussi le devancement du Grand Prix de France. Et j'ai une pensée à ceux qui voulaient vraiment assister à la course à la date prévue, qui était le 27 juin, qui a été devancé une semaine plus tôt pour avoir deux courses en Autriche. Moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire que la Formule 1 aille ces 22 courses, ces 23 courses vraiment nécessaires?
Mais pour moi, c'est pas nécessaire. Mais c'est bien que où ils sont en train d'essayer de sauver le plus possible. Ici, pour sauver des courses, il peut aller devancer en France. Pour aller deux fois en Autriche, c'est bien, au moins, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec le Japon, on ne sait pas ce qui va se passer avec l'Australie, et Singapour, ils viennent d'être annulés aussi.
Et non c'est seulement que, ça.
Oui, mais cette année, c'est pas normal. Je dis, pour moi, pour les années à venir, et en situation normale, pour moi, ça serait idéal. Et avec 20 courses, c'est bien, parce que ça va aller pas trop loin, le mois de décembre, presque.
Ouais, exact. Mais tu vois, on parle du Japon et de l'Australie, mais il y a aussi le Mexique, il y a le Brésil.
Il y a le Brésil, c'est ça, c'est pour ça. Pour ça, ça me dérange pas maintenant si la France y était devancée, si on fait le maximum pour rouler et faire des courses tant qu'il peut, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des inconnus. Des choses qu'il peut arriver, qu'il ne peut pas arriver, parce que c'est sûr, Brésil, c'est pas clair. Et Mexique, même s'il continue à dire que oui, c'est pas clair non plus, les circuits continuent à être un hôpital, les choses n'améliorent pas. Et à Japon, on ne sait pas, on attend les Jeux Olympiques et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et l'Australie, ils n'ont pas fini les travaux. Il y a des choses qui n'ont pas commencé non plus, parce que c'est autre inconnu, parce que où il dit, on va voir, c'est pas garanti.
Et puis, tu vois, je comprends aussi, parce qu'il y a Motorsport, il y a le site motorsport.com qui a publié, je pense, au cours des dernières heures, un très bon article sur pourquoi la Formule 1 essaye de sauver son calendrier de 23 saisons. Évidemment, il y a le côté télédiffusion, parce que il y a eu des renouvellements de contrats, donc ils veulent essayer d'avoir au minimum 20 courses, peut-être 20 courses, ça peut arriver, je pense. Motorsport dit, par contre, on devrait pas trop se tenir sur ce chiffre magique de 20 courses minimum, parce que ça ne va pas trop être payant, en quelque sorte. Il n'y aura pas plus d'argent reçu et tout s'il y avait 19 courses. Déjà, la Formule 1 a eu un excellent audace d'organiser 17 courses l'année dernière dans une année horrible. D'abord, c'était 8 courses pour que ce soit un championnat du monde. Ensuite, on est allé à 15 minimum, puis on a réussi à en voir 17. Et juste à titre informatif, le Grand Prix de Bahreïn, qui a été la première course de la saison, le Bahreïn se retrouve actuellement, depuis hier, en fait, depuis mardi, dans la zone rouge de la Grande-Bretagne. Donc, actuellement, et même Abu Dhabi se retrouve dans la liste actuellement, et qui est la dernière course de la saison. Donc, en espérant que la situation se porte mieux.
Mais si c'est la dernière, c'est pas grave.
on peut sauter. Abu Dhabi, ça aurait été ça veut dire ça sauve 2 heures de sieste.
Ça veut dire, Abu Dhabi, s'il y a des restrictions à Grande-Bretagne, c'est la dernière course. Bon, c'est pas grave, ils vont juste rester un petit peu plus pour l'été, si c'est ça. Après, il n'y a pas de course.
Moi, non, c'est ça. En ce moment,
c'est les vacances, parce que chacun ils mettent les voiles dans son pays.
Et puis, et surtout, le, et moi, ce qui, et moi, je pense le Grand Prix qui risque de, qui risque probablement de disparaître si tout va, si tout continue de mal aller, c'est le Brésil. Déjà qu'ils ont eu l'audace de, d'accueillir la Copa América au soccer, alors que la situation ne va pas mieux, alors que l'Argentine s'est retirée.
Et la Colombie aussi.
Ouais, la Colombie aussi. Donc là, il va, le Grand Prix du Brésil est encore, n'est pas officiellement sûr d'avoir lieu, même si c'est en novembre. Et comme je l'ai dit, la situation, ça, c'est pas fameux. Déjà que le Grand Prix, à l'origine, n'était pas supposé être au calendrier parce qu'il y a eu tout ce problème contractuel avec la tenue d'une course à Sao Paulo. Mais là, la situation sanitaire au Brésil est horrible. Même s'il y a, je pense, il y a des cas qui où ça descend. J'espère et je le souhaite. Mais Brésil, je pense pas que ça va se produire. L'Australie, ça va dépendre des restrictions de voyage parce que c'est aussi strict qu'à Singapour. L'Arabie Saoudite, eux, ils désirent vraiment avoir le Grand Prix, puis ils ont même dit que la vaccination va être nécessaire pour le personnel de la Formule 1, comme c'est le cas avec les Pays-Bas aussi, parce qu'ils veulent organiser le Grand Prix avec le plus de monde possible, avec voire même à capacité complète. Donc, je comprends la Formule 1 de vouloir avoir ces 23 courses pour, disons, renflouer les coffres après avoir perdu beaucoup d'argent en matière de courses annulées, reportées et tout. Mais côté humain, ça risque d'être un peu compliqué. Déjà, ça a été un peu difficile de dire, bon, OK, on va devancer le Grand Prix de France d'une semaine alors que je pense que c'était quand? Fin avril qu'ils ont décidé de reporter le Grand Prix de Turquie en quelque sorte, je pense.
Oui, mais Turquie venait en remplaçant Montréal.
Ouais.
Mais c'est juste la France qui a pris une avance comme de une semaine à peu près. Juste assez pour que Grosjean ne puisse pas s'essayer.
Non, c'est ça. Il n'y aura pas le test en France comme prévu, malheureusement, parce qu'il y a Road America, un circuit qui est bien meilleur que Paul Ricard. Je le dis comme ça en passant. Mais il va faire quand même ses tests. Mais je pense que... Moi, j'ai plutôt une pensée pour ceux qui avaient des billets pour le Grand Prix de France, qui avaient déjà tout prévu pour le week-end, évidemment avec les hôtels, le déplacement.
Est-ce qu'il y avait des publics en France? Oui. C'est ça qui n'est pas clair.
Je pense 15 000 spectateurs à peu près. Donc, je
de
pense...
De toute façon, il y a pas beaucoup de monde avec tout.
C'est pas moi qui le dis.
Il y a quelqu'un qui me dit de toute façon, c'est pas beau, il fait chaud, c'est plate.
J'espère qu'ils ont amélioré le trafic.
Parce que quelqu'un, un ami qui était allé, et il se plaignait pendant toute la course qu'il n'y a rien, il fait chaud, c'est juste...
Ah oui, c'est vrai, il faisait vraiment chaud.
Et en plus, le circuit, la place, il est comme dans un petit village, presque, il est loin de tout.
Ouais.
Non. Mais lui n'était pas content parce que
je peux le comprendre, mais je peux
et nous aussi, moi d'habitude je ne suis pas content, il est plate aussi la course, c'est sous circuit d'essai, c'est comme
ouais. Ben,
des fois ça me donne ébloui parce que je ne sais pas c'est quoi le circuit, c'est quoi la décoration.
Ben moi j'aime regarder le d'autres séries sur Paul Ricard plutôt que la Formule 1. Honnêtement, c'est bon pour d'autres séries. Ils sont de toute façon le circuit est modulable. Alors, mais c'est ça que je me dis. À la place d'avoir un programme double en Autriche, ils auraient pu.
Non.
Ok.
Non.
Non. J'aurais dit. modifier le circuit.
Une fois, il est assez doux, c'est trop.
Okay, correct, correct. Donc, pas de programme double en France, mais évidemment, on va surveiller, on va voir si on va voir vraiment 23 courses ou peut-être 22, tout dépendamment, mais je pense que la Formule 1 n'est pas tant pressée pour nous offrir un remplacement pour le Grand Prix de Singapour. Alors, on va passer au troisième et dernier sujet de cet épisode. On va revenir sur Pirelli parce que, évidemment, on en avait parlé dans notre émission d'après-course, comme quoi, bon, Pirelli avait des explications à nous donner. Ben, ils nous en ont donné, en fait.
Mais ils n'ont pas donné, ils juste essayaient de s'excuser, je pense.
Ouais, pour dire, bon, on va regarder cela, mais on
explique. Oui, mais c'est pas une explication. Ils ont dit, on va voir qu'est-ce qui se passe, mais c'est ça.
Mais ils disent qu'ils n'excluent pas la présence de débris, parce qu'il faut expliquer aussi que oui, il y a eu les éclatements de pneus de Stroll et de Lance Stroll et de Max Verstappen, mais ils ont retrouvé aussi une coupure profonde d'à peu près 6 à 7 centimètres sur le pneu arrière gauche de Lewis Hamilton quand il y a eu le drapeau rouge, en fait. Donc, et c'est le même train de pneus en plus. Évidemment, en réponse, juste avant ça, Max Verstappen a dit « Ouais, Pirelli va essayer de trouver un moyen de se dédouaner, en fait, de dire « Ah, c'est les débris ». Lui, il n'a eu aucun avertissement sur des possibles vibrations, tout comme Lance Stroll même. Donc,
mais au moins, la seule chose que j'aimais de l'explication de Pirelli est que au moins, ou même, dit qu'il n'y a pas eu d'avertissement parce qu'il y a des sensors dans toutes les rues, il y a la télémétrie, mon auto de Russie, il y a un pneu qui, supposons, il y a quelque chose qui doit marcher les pneus, il va m'aviser, ça commence à baisser, c'est ça, il n'y a eu rien sur le Stroll, sur Verstappen, c'était instantané, ça explose. J'imagine qu'il y a quelque chose à voir avec la fabrication aussi de matériel. Mm-hmm. Mais c'est au moins, ils ont dit qu'il n'y avait pas d'avertissement parce que tu sais, des fois le monde dit c'est Stroll qui éclatait, mais souvent c'est Stroll. On a même pensé que quand la course commençait, il y avait une petite touche avec Mick Schumacher, ils sont presque touchés. Et après, peut-être qu'il a touché les murs, peut-être qu'il a touché ces choses, mais on cherche l'erreur sur les pilotes. Mais quand c'est Verstappen qui éclate, c'est plus difficile à dire à Red Bull, regarde, c'est ton pilote qui fait une erreur.
Parce qu'il faut quand même préciser que même si Stroll et Verstappen ont eu leurs accidents avec plus de 30, respectivement 30 et 34 tours complétés avec la gomme dure, Lando Norris, lui, il a fait 41 tours avec la gomme dure. Et je sais pas, peut-être corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai cru entendre Norris dire qu'il a eu des vibrations. Est-ce que c'était à cause de du pneu dur?
Peut-être il s'est prêté à exploser aussi.
On ne sait jamais. Mais c'est possible qu'il y ait eu des débris parce que c'est pas nécessairement à cause de possibles débris de voitures. Ça peut être aussi des arbres. Parce que il faut pas oublier que Bakou, c'est un circuit venteux. C'est une ville venteuse. Désolé, Chicago.
Mais la théorie, c'est bien. La question, c'est pourquoi dans tous les pilotes, c'est les mêmes. C'est Stroll, c'est Verstappen et Hamilton, c'est la même chose. Même si tu me dis, oui, des débris, oui, quand Stroll y a eu ce éclatement, il y avait plein de débris, mais avant Stroll, il n'y avait rien. Des fois, on voit sur la piste, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui se plaint parce qu'il y a quelque chose. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas public pour dire, il n'y avait même pas de grainings pour dire, il y a plein de grainings de circuit.
Mais c'est ça. Tu vois, des problèmes de pneus, des éclatements de pneus, ça peut arriver. C'est imprévisible, mais ça peut malheureusement arriver.
Mais ça ne devrait pas arriver en Formule 1.
Non, mais c'est ça.
C'est très dangereux.
C'est très dangereux, d'accord, mais c'est quelque chose qui peut malheureusement arriver. Et ça s'est produit. Mais deux dans la même course et presque trois si on compte Hamilton, si ça avait continué. Là, il y a un énorme problème. Et c'est pas la première fois que Pirelli fait face avec des problèmes. On se souvient tous de Silverstone 2013. De Silverstone 2013. On se souvient de Silverstone l'année dernière. On se souvient de Silverstone en 2017 avec les Ferrari qui ont eu des problèmes avec le même pneu. Daniel Kvyat aussi, même si dans ce cas-ci, c'était un peu plus différent. Lance Stroll en Toscane aussi l'année dernière. Donc, je sais pas si... C'est pas pour moi... J'ai 28 ans, ça fait une vingtaine d'années que je regarde la Formule 1. À moins que j'ai eu des oublis, même avec Bridgestone ou Michelin, j'ai pas eu souvenir d'avoir vu autant d'éclatements de pneus. Je sais qu'il y a eu l'histoire de Raikkonen au Grand Prix d'Europe à Nürburgring en 2005. Il y a eu la fameuse histoire du Grand Prix des États-Unis 2005 aussi. Je pense même 2004 quand Ralf Schumacher avec sa Williams a tapé le mur lors de la course. Je sais pas si c'était pour causer
un problème de Michelin. Mais là, le problème, c'est qu'il fallait qu'on utilise les mêmes pneus pendant toute la course.
Oui, ça c'est vrai.
Il ne faut pas changer. Il ne peut pas changer cet effet pour ça, fait qu'il ne peut pas changer au moins qu'il y avait un problème mécanique, qu'ils ont touché quelque chose, il avait le droit de changer. Mais sinon, il ne peut pas changer. C'est pas comme la même affaire. Mais dans le cas de Baku, les équipes ont des instructions.
Oui.
Pirelli est là pour ça, pour donner la pression des pneus, pour donner la fenêtre qui peut plus ou moins la limite où il peut y aller, il peut tirer. Mais je pense que si les équipes ils restent dans la fenêtre, ils respectent toutes les instructions de Pirelli, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas éclater comme ça.
Mm-hmm, exact.
Parce que il faut qu'il soit sécuritaire. Parce que sinon, si les équipes ne respectent pas les instructions de Pirelli, ils sont quand même un peu pénalisés parce qu'ils jouent avec les feux.
Oui, exact. Donc, ça, je suis en train de regarder, en fait. Je vais retourner, en fait, à dimanche pour voir quelle était la stratégie possible. Donc, la stratégie possible pour les écuries, c'était d'aller avec, pour ceux qui se sont qualifiés avec la gomme tendre, c'était 11 à 15 tours, et ensuite passer aux pneus durs de entre 36 à 40 tours.
Tu vois, Stroll, il y avait 30. En tout cas, Pirelli a enregistré 29 tours avec les deux.
Exact. Et tu vois, il y a quelques pilotes qui ont fait entre 25 et 29 tours pour passer ensuite aux pneus, pour faire deux arrêts ensuite. Mais évidemment, ça a été causé par la voiture de sécurité et aussi le drapeau rouge. Mais en principe, les pneus durs qui sont plus tendres que ce que ça a été en 2019, devait durer entre 36 et 40 tours. Donc, est-ce que si Pirelli a fait une erreur, c'est une erreur grave parce que on s'entend, c'est au même endroit sur une longue ligne droite et proche de la ligne des puits qui est relativement dangereuse quand même. Alors, on s'est un peu sauvé d'une catastrophe, si on peut dire.
Oui, parce que je pense pas plutôt que ça soit comme... Où ça se peut que Pirelli a fait une erreur, c'est juste... pour moi, ça serait le contrôle de qualité.
Mm-hmm. Parce que...
Ça devrait être là parce que, c'est ça, tantôt on s'est parlé qu'il y avait la pression qui était donnée pour Pirelli.
Ouais.
Et après, il était changé en, pour une plus haute.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'il avait donné avant? Mais moi, je pensais, peut-être c'est ça, quelqu'un me dit, non, au contraire, ça améliore.
Mm-hmm.
Si c'était plus bas, ça va éclater plus vite s'il y a des problèmes.
Ben, tu vois, Stefano Domenicali aussi a dit un peu son mot. Évidemment, il comprend la frustration de Max Verstappen, mais évidemment, il fallait s'y attendre. Il a protégé Pirelli en disant il faut faire attention avec ces genres de trucs parce que mais je peux croire aussi la théorie des débris parce que l'accident de Max certes c'est arrivé plusieurs tours après le tour de Lance Stroll, donc peut-être qu'il y avait un débris dans la voiture de la voiture de Stroll qui n'avait pas été retiré de la piste, ça peut arriver
mais il ne passait pas par là non plus parce que Stroll, je ne sais pas s'ils l'ont mis ou non. C'est avec Verstappen qui ont mis le monde qui passait pour les box à la place pour nettoyer. C'est avec Verstappen.
C'est possible, mais moi je pense que Pirelli a besoin d'être transparente pour la sécurité des pilotes et pour la confiance des gens parce que probablement que. Après ce qui s'est passé.
Ils achètent pas Pirelli.
Ouais, ils achètent pas. Ouais, il y a sûrement ça aussi, le côté marketing, mais aussi l'aspect sécurité, comment les gens voient un peu la sécurité. Parce que c'est une question de sécurité aussi. Donc, vraiment de voir qu'est-ce que Pirelli devrait faire de plus. Évidemment, pour ne pas sacrifier le spectacle, évidemment, mais il faut que ce soit plus sécuritaire et que Pirelli soit plus strict en fait dans le contrôle de qualité justement.
C'est ça. J'imagine que c'est là qu'il se joue. Pirelli il doit regarder son contrôle de qualité parce que de la façon que Hamilton, ça là que c'était le prochain à éclater, s'il ne s'arrête pas, en plus tu vois la photo de celui de Stroll, il y a toute partie. Mais celui de Verstappen, tu vois les trous, tu vois comme qui éclaté.
Ouais.
Ça n'a pas l'air quelque chose qui a cassé. Ça a l'air que...
Ça a éclaté comme ça, peut-être.
Oui, c'est ça. Parce que quand tu vois ça, les photos, tu dis, mais il y a bien des choses à regarder.
C'est ça. Donc, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que j'espère que d'ici le Grand Prix de France, nous allons avoir une explication concrète.
Une explication, mais ça change rien pour ce que va voir dans la course de France, parce que les pneus sont faits à l'avance. C'est comme trois mois à l'avance, ils sont déjà fabriqués, ils sont déjà faits. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est des changements dans les pressions ou des changements, disons, décider de, à la place de dire, on va donner une fenêtre de 40 tours, on va donner 30, on va la baisser pour que ça soit sécuritaire.
Ouais, exact. Donc moi j'ai vraiment hâte, j'ai justement vraiment hâte au Grand Prix de France pour voir est-ce qu'on aura une réponse transparente de Pirelli ou bien la essayer de se déculpabiliser. Ben on verra ça.
Je pense pas que Red Bull il va demander des réponses à ces.
Ben non seulement Red Bull. Non seulement Red Bull, mais je pense que Lawrence Stroll va demander des explications.
Ah non, tu voyais que pendant l'arrêt avec Verstappen, ça parlait Omar et Mario Isola. Je disais, oh pauvre Mario. C'est une grosse journée pour lui.
C'était une grosse journée pour Mario Isola et j'espère que d'ici là, on n'aura pas d'autres problèmes.
Non.
Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Alors, normalement, on va revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et je vais vous donner le sujet tout de suite. On va parler des propos que Lewis Hamilton avait tenus il y a quelques semaines, à savoir que la Formule 1 est un club de millionnaires, boys club, billionaires club. Donc on va débattre là-dessus. Donc je vous donne déjà le sujet pour la semaine prochaine. Entre-temps,
passez juste savoir mon dernier prix.
Oh, OK, on garde la surprise pour la semaine prochaine. On va vraiment garder la surprise d'Anna Maria pour la semaine prochaine. Mais entre-temps, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, @lebulletingp. Évidemment, nous avons notre site bulletingp.com pour lire les chroniques. Vous pouvez réécouter les épisodes de podcast précédents, non seulement sur notre site, mais aussi sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Puis n'hésitez pas à communiquer sur nos réseaux sociaux pour exprimer votre accord, votre désaccord, vos critiques, ou bien même pour dire que qui va gagner l'euro, ou bien si Canadien va passer.
Canadien, la Copa América, si Poveré va jouer.
Ah oui, exact. Faire des liens entre la Formule 1 puis le foot, le hockey, le soccer. N'hésitez pas, on est présent sur les réseaux sociaux. Alors, Anna Maria, merci beaucoup d'avoir été là.
Non, merci à toi.
Toujours apprécié. Et puis, évidemment, on salue Marc-André et Brian et Jean-Sébastien qui nous écoutent aussi, peu importe où ils sont. Puis, on vous remercie encore de nous avoir écoutés. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Et surtout, prenez soin de vous. Salut tout le monde!